En gros, c'est un peu l'idée d'une sorte d'atlas où les images pourraient plus ou moins répondre les unes à les autres, en tout cas tisser en fonction de chacun des liens et des sortes de réseaux de signification qui est plus ou moins palpable, mais qui est pour nous en tout cas été assez fondateur dans la manière d'appréhender cette salle. Il y a aussi trois écrans qui, pour le coup, trois moniteurs qui diffusent trois films différents. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il vaut mieux les regarder par vous-même, et qui sont l'effet plus, non pas cette fois de science-fiction, mais plutôt de l'ordre de la science, ou en tout cas comment la science a pu être filmée, avec notamment ce film de Percy Smith, qui est l'un des pionniers de du micro-cinéma, en tout cas de la manière de filmer à travers un microscope, et donc des éléments comme ça du vivant qui ont trait soit à des bactéries, soit aussi aux plantes. C'est aussi l'un des pionniers du time-lapse. Donc on voit par exemple à un certain moment les plantes qui grandissent, quoi, qui se répandent dans l'espace. Là, voilà, c'est un de ces exemples-là. Un autre film d'animation, pour le coup, d'un autre pionnier de l'animation, qui s'appelle Carl Smith, qui a été réalisé, je crois, au début des années 90 ou à la fin des années 80, voilà, qui sont des petits jeux de modules évolutifs, et aussi c'est la manière de comment à partir de fonctions et de formes simples produire des choses qui vont se complexifier, un petit peu comme des automates cellulaires. Donc ces deux films sont à écouter au casque, et une très belle bande-son de Stuart Staple, le chanteur de Tindersticks, pour le film de Percy Smith.
Il y a un élément dont on n'a peut-être pas trop parlé.
Peut-être on peut faire le lien en effet entre le film et les cristaux, parce que c'est ça que tu veux parler, les trois pierres.
Ouais, bien sûr.
Il y a trois pierres. Trois pierres ne sont pas tant là pour le côté minéral, en tout cas dans l'idée d'un minéral qui se fait attaquer par une substance extérieure qui viendrait l'éroder ou le corrompre. Mais qui sont là plutôt, ces trois pierres différentes. Un petit peu aussi là dans l'idée de l'effet d'éléments extérieurs sur le corps humain, qui sont des pierres qui ont la caractéristique soit d'avoir des composants qui sont potentiellement néfastes pour le corps. Je ne sais plus laquelle, mais l'une d'elles, voilà, celle-ci, c'est notamment nucléaire, carrément nucléaire.
Faiblement
radioactive. Et d'autres au contraire, qui est plutôt utilisé dans des logiques de bien-être. Alors peut-être vous connaissez la lithothérapie, qui permet de se soigner, en tout cas de se déstresser par les pierres. Donc là aussi, il y a cette idée en fait pas mal aussi dans les éléments dont on a parlé, qu'on évoquait tout à l'heure aussi, cette logique un peu du pharmacone, donc des éléments qui pourraient être à la fois positifs et négatifs. Donc le pharmacone, ça pourrait se traduire à la fois comme le remède, mais aussi comme le poison. Et là, voilà, avec ces pierres, c'est vraiment l'idée un peu d'avoir à la fois ces éléments potentiellement dangereux et potentiellement bienfaiteurs, en tout cas pour apporter un certain nombre de bienfaits au corps humain, qui viennent se télescoper comme ça, ou jouer en tout cas de ces ambivalences. Je pense que c'est un effet dans cette salle, on a essayé pas mal de mettre en avant un certain nombre de jeux comme ça, de tensions et d'ambivalences, qui se retrouvent aussi dans d'autres œuvres, notamment celles qui sont au sol, qui sont trois pièces de Camille Jutier, qui sont des sortes de bonbonnes de verre soufflé directement sur ces pierres, et dans lesquelles. Qui contiennent là aussi des éléments qui viennent un petit peu se contredire ou s'annuler, puisque par exemple dans celle-là, donc avec ces couleurs très fluo, très peu naturelles, avec ce jeu en effet entre l'artificiel et le naturel. Et donc ce bleu, c'est à la fois un mélange d'un liquide qui est une sorte de Powerade, enfin de boisson énergisante et peut-être bonne pour la santé. Et d'un produit qui est plutôt un détergent pour le sol, et qui ont tous les deux exactement le même bleu, et qu'elles mélangent comme ça, voilà, une sorte de fusion des contraires. Et terminer peut-être, puisqu'on va aussi enchaîner sur eux après. Deux pièces qui sont aussi assez importantes, je pense, dans la construction de la salle, notamment celle-ci, qui est une œuvre de Mimosa Echard qui s'intitule Telos, qui a été acquise par lui assez récemment et que j'ai eu la chance de présenter dans une exposition en début d'année, et qui fait partie d'un autre ensemble qui s'appelle Bisoufleur. Ça, c'est la version maximale du Bisoufleur. Là, il y a une reproduction d'un des Bisoufleurs, qui sont donc des photos qu'elle a prises, où elle soit caresse, soit lèche une orchidée. Voilà, dans un rapport assez érotique au végétal et à la fleur, donc qui est déjà une fleur assez connotée sexuellement. Bah, déjà, la fleur, c'est un organe sexuel. Et donc, elle va venir un peu titiller du bout du doigt ou du bout de la langue ses fleurs, et à la surface de l'image, elle va, comme elle fait souvent dans sa pratique, justement un peu dans une logique de, peut-être pas de contamination, mais en tout cas de propagation ou de prolifération, elle va venir y accoler, y fixer des éléments qui sont assez récurrents, enfin, vocabulaire plastique qui est assez récurrent dans sa pratique. Et où ce télescope là aussi des éléments végétaux, des éléments issus de la culture populaire ou des éléments artificiels. Et donc Telos, c'est la version maximale du Bisoufleur, dans le sens où Telos, ça évoque aussi l'idée d'une plénitude, quelque chose de foisonnant et de total. Et en fait, c'est trois images agrandies de ces caresses à des orchidées qui sont ici complètement recouvertes à la fois donc par de la colle, du silicone, il y a énormément de noyaux de cerise, elle a tout un truc avec le noyau de cerise qui est cet élément qu'on ingère, donc à la fois on recrache toujours, donc il y a aussi un rapport très sensuel et très sexualisé à cette pratique plastique, et puis qui dessine aussi là une sorte de cosmos, ou en tout cas de planisphère un petit peu très organique. Avec l'idée aussi, puisque elle utilise certaines fleurs, dont je parlais d'allusion érotique, mais elle utilise par exemple cette fleur bleue qui s'appelle le clitoria, ou une autre plante dont le nom m'échappe, mais qui est utilisée pour les cosmétiques ou ce genre de choses. Et avec l'idée, il y a des sortes de bandes comme ça qui viennent relier aussi les images et ces différentes parties, avec l'idée aussi finalement d'un pansement. Ouais, elle parle de pansement pour cette œuvre, donc quelque chose aussi de presque médical, médicinal, à travers cette œuvre. Qui après, bon, il y a d'autres. Il y a l'idée du liquide, du fluide, avec ces escargots qui s'entremêlent justement qui sont entrepétrés. Dans les coulures du silicone et de la colle. Silicone.
Oui. Silicone.
Bruno Botellas, donc avec cette œuvre qui s'appelle Ophorat, qui est un terme russe, et qui est alors techniquement c'est un moulage qu'il a fait de son propre crâne avec du silicone. Mais sans utiliser les bonnets et la vaseline de circonstance, c'est-à-dire qu'il a moulé directement son crâne en démoulant ce silicone, et a évidemment du coup coupé ses cheveux au plus près des racines, et ce qui donne d'empreinte, voilà, plutôt, c'est plutôt une empreinte qui est une empreinte scalpée, qui joue à la fois sur un effet positif et négatif, puisque ce qui était à l'intérieur du silicone se retrouve à l'extérieur, donc c'est ses vrais cheveux qui tombent régulièrement, je crois, et à l'inverse, ses oreilles sont rétro-versées, ce qui fait qu'il y a cette ambiguïté d'un être un peu double, et qui fait écho, enfin qui s'inscrit en tout cas dans tout un travail qui fait autour de la lycanthropie, donc on parlait tout à l'heure je crois de Lycaon, qui se transformait en loup, Et donc la lycanthropie, c'est typiquement la transformation d'un homme en loup, ou plus généralement en loup-garou, et qu'on retrouve dans plein de traditions d'origine diverse, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie. Et alors, plus directement par rapport à ça, il y a une légende médiévale qui disait que les loups-garous, comment dire ça, les loups-garous, la fourrure de loup-garou était comprise à l'intérieur de la peau, donc la nuit en gros, en tout cas quand il se transforme à la pleine lune, la fourrure passe à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est très clair. Enfin, en tout cas, que voilà, la fourrure est à l'intérieur, ce n'est pas une transformation de l'épiderme, mais au contraire, une sorte de rétroaction comme ça.
Oui, peut-être une dernière chose là-dessus. Effectivement, il y a un terme qu'on n'a pas trop employé, mais qui a été quand même assez présent dans nos recherches, c'est la peau, puisqu'on a l'interface sensible, et c'est vrai que la peau est entre les nerfs.
C'est une peau aussi.
Exactement. Ce qui concerne le corps, c'est quand même
très la peau, en fait, c'est la peau à travers le contact.
Oui.
Il y a un truc...
Et effectivement, je sais pas qui a parlé de scalp, etc., mais il y a aussi quand même l'idée d'une sorte de mue là-dedans, comment la peau est retournée. Alors avec quand même la peau, c'est aussi cette idée de séparation mais, entre un intérieur et un extérieur, mais c'est une surface poreuse, donc ça remet aussi un peu en question ces notions, cette séparation intérieure et extérieure. Donc je parlais de mue, et avant de revenir dans l'auditorium, je voulais préciser pour ceux qui n'ont pas vu, et je pense qu'ils sont nombreux, qu'il y a une mue de cigale là, sur ce petit muret qui provient de ma collection personnelle. En termes de corps et d'identité et de métamorphose,
c'est des surprises. Nathalie, tu veux dire deux mots sur la voix?
Si vous avez fini sur le plan des
contenus. Juste pour faire le lien entre Bruno et Mimosa, il y a aussi. Ce qui est intéressant dans la recherche de Bruno Botella sur la lycanthropie, c'est qu'il y a aussi tout un rapport. En fait, il est tombé sur un texte notamment perse, oui, et je crois que c'est aussi vrai dans la tradition plus occidentale, où la lycanthropie n'est pas considérée comme vraiment une transformation, mais comme une vraie maladie potentielle. Et donc, on crée des pommades, des onguents, pour empêcher la créature de sortir. Et lui, peut-être, mais par rapport à d'autres œuvres qui sont présentées ici, il a plutôt cherché à retrouver la formule potentielle d'une pommade ou d'un onguent qui lui permettrait de se transformer en animal. Ah voilà, c'était pour faire le lien aussi avec le côté un peu... cosmétique, mais pansement, voilà, de l'œuvre de Mimosa. Et ce qui est super, parce que tout s'articule parfaitement, c'est que Mimosa est actuellement en résidence à Villa Kujuyama à Kyoto, et que Bruno vient de s'installer à Kyoto pour d'autres raisons, qui se connaissent très bien, son copain. Ils étaient dans le même atelier sur les seins, c'est un détail. Et donc on leur a proposé de nous proposer quelque chose justement pour ce... pour ces journées d'études, qui à l'origine devait être plutôt une sorte de discussion, disons, verbale, entre eux, et j'en dis pas plus, mais c'est pas une discussion verbale.
Non, mais ouais,
ouais, ça a été surprise.
Alors moi, c'est l'interlude pratique, désolée, parce que ça tombe plus à plat, mais je suis obligée, parce que je tiens, c'est mon perfectionnisme, que veux-tu, à rappeler à quel point ce document est important, parce que la plupart d'entre vous ont le dossier de la station 16, mais celui-là n'y est pas. Ainsi que l'autre document, et ça me permettait quand même, en retraversant l'espace, de rappeler qu'à l'IAC, depuis cet été, on spatialise le laboratoire, comme vous pouvez vous en rendre compte, que tout ça est en évolution, que toutes les impressions et vos avis sont les bienvenus pour pouvoir faire évoluer les choses. Après, ce n'est pas de façon permanente. D'abord, le mot permanent n'existe-t-il. Et du coup, c'est en raison de un tiers de l'année à venir des lieux d'exposition, mais pas toute l'année. Donc ça, c'est une chose. Et que du coup, la conception... du design des meubles et de toutes ces installations a été conçu par un artiste participant du laboratoire qui est Mezizak, et c'est aussi voilà, ce petit salut que je voulais faire à cet endroit au moment où nous y sommes et en première fois. Et puis vous verrez cet atlas que je l'ai dit à Véronica Janssen, qui est notre atlas depuis 10 ans, où je me tiendrai à votre disposition pour tout commentaire à l'issue de cette journée d'études sur le parcours accompli à travers les œuvres présentées depuis 10 ans donc sur ces murs que vous avez là derrière à nos jours. Voilà, c'était tout.